Je m'étais complètement égarée dans une forêt, inexplicablement égarée. Car l'instant d'avant, j'avais marché, certes pas sur un chemin, mais à proximité du chemin que je n'avais jamais perdu de vue. Et maintenant, je m'étais égarée, le chemin avait disparu, toutes mes tentatives pour le retrouver avaient échoué. Je m'assis sur la souche d'un arbre avec l'intention de réfléchir à ma situation, mais j'étais distrait. Je pensais en permanence à autre chose qu'à ce qui était le plus important. Mes rêvasseries m'éloignaient de mes soucis. C'est alors que je remarquai les myrtilles tout autour de moi. J'en cueillis et je les mangeai. Je viens de lire un extrait du 6e cahier du Château de Franz Kafka, traduit par Jean-Pierre Lefebvre, coordinateur et traducteur de ces deux volumes de Franz Kafka qui viennent de paraître dans la collection La Pléiade chez Gallimard. Il est notre invité ce soir et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Youkali Kurtweil.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère, où nos âmes se terrent, en quelque c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre vie comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali. Youkali, thank you.
C'est la merveilleuse voix de Marion Rampal qui a interprété ce Youkali. Merci Jean-Pierre Lefebvre d'être avec nous ce soir en direct dans ce studio. Vous êtes un savant, vous êtes un professeur de littérature germanique, vous enseignez à Normalsup. Vous êtes responsable de la traduction de très grands auteurs allemands, aussi bien en philosophie qu'en littérature. Ces derniers temps ont paru simultanément aux éditions Gallimard, et c'est une véritable révolution, votre traduction des deux premiers volumes de l'œuvre de Franz Kafka. Et je me suis aperçue que, vous concernant, vous-même, votre vie, les raisons pour lesquelles vous êtes devenu ce savant, eh bien je ne sais rien de vous. Comment avez-vous été élevé? Êtes-vous né dans un milieu où la culture était importante? Comment avez-vous fait votre chemin en littérature? Les universitaires parlent jamais d'eux.
Non, a fortiori les traducteurs qui sont censés en général disparaître derrière le travail qu'ils ont fait pour qu'on ne perçoive pas la marque de leur propre plume. Moi, je suis né dans une famille qui ne faisait pas partie de la bourgeoisie cultivée comme on la connaît à Paris et comme je l'ai connue ensuite, mais d'où la tentation culturelle n'était pas du tout absente. Ça a été la même chose pour mes frères et sœurs, pour mes nombreux frères et sœurs. En particulier, des formes tout à fait populaires de la culture ont habité mon enfance, en particulier la chanson. Et la chanson et la musique, voilà, sur le tard, il y a eu un piano à la maison récupéré chez des parents. Et voilà, c'est un chemin relativement simple, avec un élément peut-être... un peu plus original, qui était la présence dans la famille d'autres voix que celle de la langue française. Donc il y avait eu l'anglais, et j'habitais à Boulogne-sur-Mer, et il y avait des Norvégiens dans la famille, donc j'ai entendu plusieurs langues assez tôt, qui me sont restées dans l'oreille, et ensuite je les ai apprises. Voilà, et le goût s'est installé assez aisément de la littérature, mais en passant par des genres qui ne sont pas considérés généralement comme des genres littéraires. Que j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie étant enfant, enfin des choses de ce genre, des petits romans humoristiques, des histoires de guerre, des choses comme ça. Mais de fil en aiguille, voilà, je suis devenu un peu un spécialiste de la littérature. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'y avoir baigné dès l'enfance pour y accéder. Et c'est un peu l'hommage que je rends à H.T. von Zweig, dont j'ai édité aussi les œuvres dans la collection de la Pléiade. C'est que, bon, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, sur la facilité avec laquelle il écrit, il y a toute une série de reproches qui lui sont faits, mais c'est quand même...
C'est toujours déchirant, hein, Stefan Zweig.
D'une part, c'est déchirant, et c'est accroché à des réalités psychiques intenses. Et puis, c'est un homme dont je constate qu'il continue, longtemps après sa mort, de donner le goût de la lecture à un nombre considérable de gens. J'inspecte toujours les rayons des œuvres de Zweig dans les librairies des gares, et je le constate, et voilà. Du reste, l'un des livres que j'ai lu dans mon enfance, c'était le livre de Zweig, précisément sur les heures étoilées de l'humanité, c'était le titre à l'époque. Et c'était un des chemins qui mène à la littérature.
Donc vous êtes un savant qui plaidait et qui œuvrait pour la culture populaire. Vous faites partie d'une génération, Jean-Pierre Lefebvre, qui a eu maille à partir idéologiquement, politiquement, psychiquement avec la langue allemande. Moi, je fais partie d'une génération qui n'ait pas pu apprendre l'allemand, ni au lycée, ni plus tard. Ça a été très compliqué parce qu'il y avait une sorte d'opprobre jeté sur cette langue. Comment avez-vous vécu ce problème-là, et a-t-il existé pour vous?
Alors cet opprobre, je ne l'ai pas vraiment connu, ni au niveau scolaire, ni au niveau familial, encore qu'il y ait eu des victimes dans la famille de la guerre et de... Je suis né dans une ville qui a énormément souffert de la guerre et pendant les bombardements. À l'école, j'ai fait de l'anglais puisque j'habitais à Boulogne-sur-Mer, donc en face de l'Angleterre, et puis c'était la langue la plus répandue. Mais quand je suis arrivé dans les classes préparatoires au lycée de Lille pour préparer le concours d'entrée à l'école normale, les élèves qui étaient là m'ont dit « tu devrais plutôt faire l'allemand que l'anglais parce que le prof est très bien ». Enfin, voilà, des choses d'une grande simplicité. Et comme j'avais dans ma jeunesse passé un certain nombre de vacances à Constance, au bord du lac, chez un correspondant, où j'avais un peu m'étais initié à la langue orale et à la réalité allemande. Voilà, donc j'ai fait ce choix en arrivant en classe préparatoire et je m'y suis tenu, bien qu'à un moment j'ai failli bifurquer vers les langues scandinaves. Donc j'ai d'abord commencé par étudier le suédois et l'islandais et puis je suis revenu à l'allemand assez vite et j'y suis resté. Un peu par hasard, parce que le poste de lecteur à Reykjavik que j'étais censé occuper n'avait pas été pourvu. Et donc, finalement, je suis rentré dans le cycle des études germaniques et j'y suis resté parce qu'il y avait déjà un grand nombre d'auteurs qui, pour moi, étaient essentiels, enfin, que j'avais beaucoup aimé lire et quelquefois même traduire dans le cadre d'exercices. Et puis, il y avait surtout l'horizon philosophique qui m'attirait beaucoup et qui a continué de m'occuper jusqu'à très peu de temps d'ici.
Alors, vous avez traduit Husserl, vous avez traduit Kant, vous avez traduit Hegel, autant dire des monuments de l'histoire de la philosophie allemande, des œuvres très compliquées à justement à développer, enfin, à nous faire permettre... d'en comprendre les enjeux. Vous êtes rentré à Normalsup, vous avez eu ce qu'on appelle un caïman, puisque c'est comme ça qu'on nomme les professeurs qui vous prennent en charge à l'intérieur de Normalsup. Ce caïman a laissé une trace dans l'histoire philosophique du XXe siècle pour différentes raisons. D'abord parce qu'il a revisité l'œuvre de Karl Marx, que vous avez vous-même traduit, mais on y reviendra tout à l'heure, et notamment cette œuvre maîtresse qui s'appelle Le Capital, mais aussi parce qu'il a laissé une trace sur toute cette génération de philosophes aujourd'hui. Je veux bien entendu parler de Louis Althusser, que nous allons écouter. Il va parler de la pédagogie et de l'éducation.
Helvétius déclare que l'on enseigne aux enfants... non seulement dans les familles, mais également dans les écoles, toute une série de préceptes de conduite qui sont en fait en contradiction avec le cours du monde. On enseigne aux enfants des préceptes de vertu, mais lorsqu'ils deviennent des hommes, le même père qui leur enseignait des préceptes de vertu leur enseigne à ce moment-là des préceptes tout à fait cyniques qui sont destinés à leur permettre de réussir dans le monde, qu'il s'agisse du monde politique, qu'il s'agisse du monde social ou du monde économique. Il y a donc une contradiction fondamentale entre la morale qui est enseignée aux enfants, les préceptes qui leur sont enseignés par les parents et par leurs maîtres d'école, et les lois immanentes qui gouvernent la nécessité du monde. Et ce monde est évidemment un monde social. Et par là, nous débouchons sur une seconde prise de conscience, non seulement la contradiction des méthodes de la pédagogie, mais la contradiction fondamentale qui commande cette première contradiction. Si nous en restons sur le plan de l'éducation entendue comme pédagogie, et si l'on confronte la pensée d'Helvétius à celle de Rousseau, on est forcé de constater que, sur bien des points, leurs projets se recoupent, ou même se recouvrent complètement. Mais Helvétius reproche à Rousseau de croire à la bonté originelle de l'homme. Il lui reproche également d'attribuer une importance démesurée à ce qu'il appelle l'organisation de l'homme, c'est-à-dire à sa constitution organique. Helvétius reproche également à Rousseau de croire à l'existence d'un instinct moral inné.
Alors nous venons d'entendre un des nombreux cours de Louis Althusser. Althusser qui portait sur Helvétius et Rousseau, donc c'est du très haut niveau, c'est du lourd comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Lefebvre. Louis Althusser était-il un bon pédagogue et que vous a-t-il appris ?
Alors bon, moi j'étais germaniste et étudiant, j'étudiais les langues. Et j'ai séjourné 2 ans à l'étranger pendant mon passage à l'école normale, donc je l'ai certainement moins entendu que bien d'autres de mes camarades. Je l'ai surtout fréquenté quand je suis moi-même devenu enseignant juste après mes études à l'école normale, auquel cas j'étais son collègue, puis son ami. Et donc, j'avais déjà, bien sûr, entendu certaines de ses interventions. Mais c'est surtout dans la phase ultérieure que je l'ai fréquenté. Dans ce que vous avez sélectionné comme passage enregistré de ses interventions, de ses cours, je reconnais, comment dire, évidemment sa voix, le grain de sa voix, mais aussi sa manière de extrêmement pédagogique. Il parle de la pédagogie, mais de manière performative, en donnant une espèce d'exemple de, comment dire, de ce qu'il faut faire pour être entendu et compris. Et donc, c'est quelqu'un qui a une syntaxe qui est très très pédagogique, et c'est souvent quelque chose qui manque à des gens qui interviennent, qui parlent devant autrui. Et mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que indépendamment de cette, donc on peut appeler ça une démarche populaire, hein, c'est une façon très simple d'exprimer les choses, de dire qu'il y a une contradiction. D'ailleurs, on trouve ça chez Kafka aussi, là, dans la relation à son père et à la religion. Mais et donc il soulève un problème qui est celui d'une contradiction, et en même temps il instille très très délicatement, on s'en rend à peine compte, mais des concepts qui sont plus difficile à percevoir immédiatement, mais qui ont une grande efficience dans ce qu'il dit. Par exemple, il introduit la notion d'immanence qui ne parle pas à tout le monde. Voilà, donc je le reconnais bien là, et je le reconnais aussi dans l'intérêt profond qu'il avait pour le XVIIIe siècle, pour Rousseau notamment.
Donc vous avez vécu ces années au cours desquelles Louis Althusser a commencé à perdre pied, notamment dans ses relations avec certaines personnes, puisque, bon, il est difficile de parler d'Althusser sans faire référence au fait qu'il ait tué sa femme, et qu'il a publié d'ailleurs un texte après la mort tragique de sa femme, tout ça s'étant passé à Normale Sup, où vous enseignez toujours, Jean-Pierre.
Oui, vous enseignez toujours.
Comment aujourd'hui pensez-vous ce qui semble être une contradiction, ce qui apparaît comme une contradiction ô combien criante, qu'un très grand esprit ait pu arriver jusqu'à l'offense suprême et jusqu'à l'assassinat de cette femme qu'il aimait d'un amour fou?
Je n'ai toujours pas compris. Pour moi, c'est resté une énigme douloureuse, car j'étais aussi ami avec Hélène, et bon, ils sont venus chez moi, dans ma banlieue, etc. Donc c'était quelqu'un de proche, dont j'ai observé effectivement dans les années 70 une évolution un peu inquiétante, avec non seulement des phases comme ça de dépression et d'excitation maniaque, mais aussi un peu une dégradation, y compris dans le monde du travail, une attention qui changeait d'objet. Et voilà, et évidemment, j'ai été surpris quand même, cruellement, comme tout le monde. J'étais là, j'y suis allé tout de suite ce matin-là. Enfin, j'ai été appelé. Et bon, je peux dire, d'une certaine manière, je suis toujours dans le refoulement de ce qui est arrivé. Et je n'ai pas encore compris ce qui s'était passé, sauf que, par ailleurs, j'ai observé, comme j'ai en plus travaillé sur Freud pendant près de 10 ans récemment, donc je me suis intéressé un peu à toutes ces pathologies. Freud n'aborde pas d'ailleurs cette question-là, bien sûr, mais j'ai regardé les choses sous l'angle, disons, des hypothèses analytiques ou psychiatriques, avec un peu plus de connaissances, et bon, disons, la probabilité que la chose arrive m'est apparue comme quelque chose de tout à fait réel, mais qui conserve toujours une dimension accidentelle. En plus, j'avais perçu chez Hélène une angoisse grandissante, une peur, quoi. Donc voilà.
La porosité entre le monde réel et l'imaginaire est évidemment une des thématiques qui doit être prégnante et hyper présente à l'intérieur de votre travail d'enseignant, mais aussi de traducteur. Vous disiez que vous aviez traduit Sigmund Freud, notamment l'interprétation des rêves. texte ô combien important et cardinal encore aujourd'hui au XXIe siècle, nous avons retrouvé un document sonore. Alors il n'est pas très audible, il n'est pas très agréable à entendre, mais on va en écouter quelques secondes de la voix de Sigmund Freud. Évidemment, c'est à la fin de la vie de Freud, c'est quand il se retrouve en exil à Londres. Il va s'exprimer donc en anglais et pas en allemand. Il fait manifestement allusion à Joseph Breuer, qui était médecin et physiologiste autrichien, spécialiste comme lui dans l'hystérie. Écoutez la voix de Sigmund Freud et peut-être vous, Jean-Pierre Lefebvre, en direct, vous allez peut-être comprendre ce que nous dit par-delà le temps cette archive où Sigmund Freud s'exprime.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patient. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis.
Alors, d'après ce qu'on comprend, il parle de la définition de la psychanalyse. On peut ajouter que c'est une archive INA du 7 décembre 1938 et que ce document a été enregistré par la BBC au domicile de Sigmund Freud à Londres.
Oui, j'ai eu du mal à le suivre là parce que, bon, il parlait déjà avec difficulté à l'époque, il était malade.
Très malade.
Très très malade, en particulier de l'appareil vocal. Donc voilà, j'ai eu du mal à suivre ce qu'il disait dans son anglais de fortune, mais il le connaissait bien, il écrivait, etc. Il avait des correspondances dans lesquelles il apparaissait qu'il dominait bien la langue, et puis l'anglais était en train de devenir la langue internationale et la langue de l'export de la psychanalyse après l'allemand. Et bon, lui-même était. J'ai traduit des œuvres de Freud jusqu'à la fin de sa vie, puisque pas le dernier ouvrage que j'ai traduit, mais le dernier ouvrage de Freud que j'ai traduit, c'était Moïse et la religion monothéiste, très très grand, très très beau texte d'ailleurs. Extrêmement intéressant. Et ensuite, j'ai traduit des textes qui prolongeaient justement les textes du début. On est passé à la deuxième topique, etc. Donc, des textes beaucoup plus exigeants sur le plan théorique que l'interprétation du rêve, mais où j'ai, je pense, beaucoup appris moi-même. Car un traducteur qui passe sa vie dans les textes d'autrui continue son éducation aussi. On apprend avec Marx, avec Hegel, avec Freud, avec les écrivains, avec Kafka.
Comment fait-on alors justement pour s'immerger dans le territoire intellectuel, mais aussi psychique, mais aussi historique, mais aussi très personnel, intime, pourrait-on dire, d'un Sigmund Freud ou d'un Franz Kafka? Est-ce qu'on devient soi-même un autre? Est-ce qu'on s'outille d'un appareil pédagogique extrêmement fort pour pouvoir rentrer dans son univers? Ou est-ce qu'on y va, comme on se jette dans l'océan, mais on se jette dans la langue de celui qu'on va tenter de traduire?
Oui, on ne devient pas un autre, mais on devient autre. C'est-à-dire qu'il y a des modifications, y compris de la vision du monde, et puis de l'univers culturel dans lequel on se trouve, parce qu'il y a quand même une continuité entre Rousseau, Hegel, Marx, Freud, etc. Et pourquoi pas Kafka, hein. Et pour Zweig, c'est moins le cas. On accompagne un processus historique qui a échappé aux individus puisque la durée de vie est trop brève pour qu'ils l'aient vécu de la sorte. Mais on fait le chemin, et c'est vrai, on fait le chemin dans la langue. C'est-à-dire que on constate une chose, entre autres, essentielle, que cette langue est toujours la nôtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dépaysé chez Rousseau et Helvétius, et la langue progresse assez lentement, ce qui fait qu'on se trouve toujours, d'une certaine manière, dans la génération de paroles de ces gens. Et ça crée une sorte de confiance mentale et intellectuelle dans leur discours. On n'a pas l'impression de manquer des nuances et des choses comme ça qu'ils diraient avec difficulté. Et ça crée une confiance qui, évidemment, est nécessaire ensuite pour traduire. Il faut rentrer dans ce qu'ils veulent dire ou leur manière de dire parvenir à construire soi-même un idiome qu'on estime adéquat à la chose qu'on traduit. Je me suis vraiment posé cette question-là qu'au départ je ne me posais pas vraiment. J'ai découvert au fur et à mesure du travail que cette question se posait. Quel idiome vas-tu utiliser ? Dans qu'est-ce que tu vas repérer dans cette langue, notamment chez Kafka ? Qu'est-ce qui va caractériser sa façon de se servir du langage que tu pourrais rendre par certains choix, donc quand tu traduis. Et bon, dans le cas de Kafka, il y avait le fait qu'il écrit très vite, enfin il y a des cadences, il y a le fait qu'il n'est absolument pas embarrassé par les ornements habituels qu'on trouve dans la prose allemande des écrivains du 19e siècle, jusqu'à Thomas Mann. Hein. Ça peut avoir l'air un peu sec, mais en réalité, il y a une pensée derrière, il y a une idée, il y a un désir de mettre en place un univers à la fois imaginaire, mais tellement lourd de langage que c'est pas uniquement imaginaire, c'est aussi langagier, c'est aussi de la pensée.
Et c'est aussi de l'émotion. Quand on lit vos traductions, Jean-Pierre Lefebvre, qu'elles soient de poésie, de philosophie ou de littérature comme Franz Kafka, ces jours-ci, grâce à cette double pléiade, on a l'impression que traduire, ça serait peut-être pour vous tenter de faire en sorte que l'auteur demeure pour nous lecteur, membre encore de la communauté des vivants.
Oui, en tout cas, bon, d'abord Kafka aurait pu vivre très très longtemps au XXe siècle et aurait pu partager avec nous ou avec nos contemporains la parole. Et donc, il y a cette familiarité plus immédiate et je vais prendre un exemple. Le texte, un des textes que je préfère, c'est le dernier, pratiquement le dernier, c'est Le Terrier, qui est un long monologue paranoïaque, angoissé, etc., qui dans ses formes mêmes révèle la souffrance de cet être impossible. Hein, parce que ce blaireau qui amasse les choses et qui veille à ce qu'on ne vienne pas lui piquer, enfin il a quelque chose de déplaisant et en même temps il a dans le discours qu'il tient, dans la pathologie qu'il exhibe, il y a quelque chose qu'on reconnaît comme avec une espèce de quasi fraternité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce texte et je me dis toujours que les comédiens allemands, mais pourquoi pas français ou autres, pourraient s'en servir pour se former à la parole qui n'en finit pas, qui est à mi-chemin entre l'écriture et l'improvisation, dans une espèce de lieu dont Kafka avait la clé, qui n'est pas accessible à tout écrivain. Voilà, et avec au départ non pas difficulté mais méfiance. Je suis entré dans l'œuvre de Kafka avec méfiance parce que j'avais tellement vu la mode Kafka à une certaine époque dans les années 50, 60. C'est vrai que ça a créé chez moi une prudence et donc j'y suis entré doucement et j'y suis resté.
Alors, rentrer doucement dans Kafka, je ne sais pas ce que ça veut dire, Jean-Pierre Lefebvre. Ce que je peux dire, c'est que votre traduction nous le rend ô combien vivant, ô combien frère, ô combien drôle, parce que il y a aussi cette tentation et cette réalisation de la drôlerie à l'intérieur de Kafka. On a l'impression que c'est un raconteur d'histoire à travers votre nouvelle traduction. Vous êtes inscrit dans une lignée ô combien prestigieuse des traducteurs en France qui ont essayé et qui ont réussi, chacun à leur façon, de traduire Franz Kafka. Je vous propose d'écouter la voix de Marthe Robert. Marthe Robert qui a été une des plus illustres dans vos devancières. Elle va parler de Kafka et de l'art d'écrire. C'est une archive INA du 13 juin 1972.
Je ne sais pas si beaucoup d'enfants ont lu autant de contes de fées que moi, et surtout s'ils ont continué aussi longtemps. J'ai raconté quelquefois comment, justement, ce qui m'a la première fois attaché à Kafka, comment il m'a été révélé, et ce qui a décidé tout de même d'une bonne partie de ma vie, puisque j'ai passé plus de 20 ans à le traduire, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est justement en relation avec cette histoire de conte de fées. J'ai eu entre les mains un petit texte de Kafka, inachevé, sans titre, une page, que j'ai d'ailleurs retraduite par la suite quand j'ai traduit son journal. Elle fait partie de son journal, cette histoire, où on voit simplement un homme qui est dans son lit le dimanche matin. Il a convenu avec des amis de faire une excursion dans la campagne et il ne s'est pas réveillé à l'heure. Alors les amis impatients frappent à sa porte, il ouvre et puis il se retourne et il voit tout d'un coup qu'il a une épée fichée dans le dos jusqu'à la garde. Alors voilà, n'est-ce pas, cet homme, il a travaillé toute la semaine, j'imagine, ça doit être un connu voyageur comme la plupart des héros de Kafka. Et le dimanche, jour où la mécanique du temps est un peu arrêtée, il lui arrive cette histoire extraordinaire d'avoir une épée dans le dos. Alors, ses amis, d'ailleurs, se mettent simplement à rire, ils ne s'étonnent pas. Et l'un d'eux lui met un genou dans le dos pour tirer l'épée millimètre par millimètre. Il ne dit pas du tout si ça lui fait mal, il ajoute simplement que le sang ne coula pas. Et l'histoire finit sur une très très belle phrase qui permet à d'anciens chevaliers de venir rôder dans nos rêves. Si vous voyez un petit peu ce que j'ai écrit depuis, c'est cela qui pour moi, au fond, est le plus fascinant dans l'art d'écrire, dans l'écriture.
Alors nous venons d'entendre la très grande traductrice Marthe Robert qui s'exprimait sur sa passion Kafka. Elle vient de dire, Jean-Pierre Lefebvre, que finalement, travailler avec Kafka, traduire Kafka, ça a modifié son caractère. Et vous ?
J'espère que ça ne l'a pas trop, trop modifié. Marthe Robert est quelqu'un qui a cette sensibilité très très efficace, mais qui en même temps a écrit des choses magnifiques d'intelligence théorique, d'interprétation de Kafka, où personnellement je me suis toujours retrouvé. J'en ai fait un grand usage. Je l'ai beaucoup lu. En plus, j'ai beaucoup apprécié son écriture aussi, qui était peut-être influencée par le travail qu'elle faisait. Mais pour revenir sur la question des contes de fées, la conviction que je me suis faite très très tôt, c'est que Kafka avait gardé quelque chose de l'enfance qui était l'habitude de raconter à ses sœurs des histoires. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'improvisation jusqu'à ce qu'elle dorme. Et discutant encore avec une personne hier de Kafka, je corrélais ça à une des dimensions du jazz, qui est un type de musique dans lequel l'improvisation est un élément absolument essentiel. Et quand on regarde un peu les lignes principales qui fonctionnent, les lignes de force dans l'œuvre de Kafka, on retrouve toute une série d'éléments profonds qui sont aussi ceux du jazz et de la tradition du jazz, avec notamment un esprit de résistance à l'aliénation, à la soumission, enfin d'un air de liberté, un désir de liberté qui s'exprime. un investissement du corps dans l'écriture, qu'une présence du corps qui chez Kafka est difficile, mais qui est quand même tout à fait observable dans son écriture, qui a quelque chose de dansant, une présence de la question sexuelle assez tordue chez Kafka, mais qui est justement est là avec toutes ces torsions. Et qui est aussi évidemment au cœur de manière assez directe de la musique de jazz actuelle et depuis toujours. Voilà. Donc il y a ce côté, il y a cette fratrie avec là, évidemment le grand témoignage de son œuvre et en particulier des romans de refus de l'antisémitisme, parce que les trois romans sont des romans construits sur le refus de l'expulsion hors de la communauté des gens bien. Et donc, on retrouve ça aussi, d'ailleurs, c'est une des lignes aussi du jazz dans lequel, justement, l'exil judéo-américain a joué sa partie. Voilà, et finalement, cette idée de cette espèce de parenté avec le jazz qu'on n'observe pas du tout chez les autres écrivains faisait système avec cette espèce de conviction que j'avais que c'était un jeune garçon, parce que moi je m'y suis mis tard dans ma vie à Kafka, donc j'avais déjà des enfants, des petits-enfants, donc ce garçon je l'ai vu un peu comme un fils, quoi, un peu comme que j'ai regardé vivre et souffrir, voilà. Et donc cette conviction que ce jeune garçon avait aimé raconter des histoires dans la famille et improviser, et ensuite à ses camarades, à ses amis, et ensuite à lui-même en écrivant, etc. Il avait développé là une veine assez universelle finalement, dont les gens ne comprennent pas les ressorts, mais dont ils apprécient l'efficacité, parce que même cette histoire d'épée dans le dos, qui convoque aussi des expressions populaires, enfin ça a l'air de rien. Et en même temps, c'est toujours plus riche que ce qu'on pense dans un premier temps. C'est la surprise que j'avais souvent avec les textes. Je disais, bon, il s'est pas donné trop de mal. Puis en fait, en traduisant, on entrait dans la rigueur qui avait derrière. Et voilà l'expérience que j'ai faite.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Pierre Lefebvre, Marguerite Kelker, chant yiddish, chanté par Chava Alberstein.
In Wälde beim Teichel dort sinnen gewachsen, Margaritkelech ält und klein. Wie kleininke Sonnen mit weißinke Strahlen, mit weißinke Tralalala. Gegangen ist Habele still und verhullend, zerlosen die goldblonde Zepp. Das Hälsel entbläust und gemurmelt gesungen, das Liedel de Tralalala. Da kommt ihr entgegen, a Bocher, a Schwarzer, mit Locken, mit Schwarze wie Pech. Er flammt mit die Augen und entfährt ihre lustig und entfährt ihr Tralalala. Was suchst du Mädel? Was hast du verloren? Was willst du gefunden in groß? Ich such Margaritkes, verheutelt sich Hafe. Verreutelt sich tralalala. Du suchst noch, ich hab schon gefunden die schönste Margaritke in Wald. A Margaritke mit Zepp und mit Augen Saphiren, mit Egerlach tralalala. Nein, ich hab schon Margaritke. Ich hab sich vergessen, ich such doch nicht weit, ist der Qual. Der Qual ist geschlossen und mir bleibst du durstig beim Quellchele, tra-la-la-la. Ich will gar nicht trinken, ich such mir ein Schotten, die Sonne backt herein, also ich heiß. Meine Haare sind schwarzer und kieler wie Schotten in Wäldele, tra-la-la-la. Los mich, mein Tor nicht, die Mama sagt, mein Tor nicht, mein Mama ist alt und ist beis. Wo Mama, was Mama, da sind nur Bäume, nur Bäume, la, tra, la, la, la. Man seht, keiner seht nicht, man hört, keiner hört nicht. Das Wälde ist blind und gedicht. Umarm mich, Süße, du siehst, ich bin ruhig, ich kusch dich nur tra-la-la-la. Du liebst mich, ich lieb dich, du schämst dich. Ich schäme mich, lieb mich und schäm sich und schweig. Und seh, wie es mischen sich pech schwarze Kreuzen mit goldene Tra-la-la-la. Die Sonne ist vergangen, der Bocher verschwinden und Havele sitzt noch im Wald. Sie guckt in der Weiden und murmelt verhullend ein Liedele, tra-la-la-la. Sie guckt in der Weiden und murmelt verhullend das Liedele, tra-la-la-la-la.
Ben merci pour cette très belle chanson yiddish, Jean-Pierre Lefebvre. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, c'est une chanson qui a l'air toute simple. C'est l'histoire d'une fille qui se fait draguer dans les bois par un jeune garçon qui arrive. Elle est partie cueillir des fleurs et puis, voilà, il fait tentative d'approche et puis elle dit, oh là là, ma mère veut pas, etc. Et lui dit, qu'est-ce que tu t'occupes de ta mère, etc. Donc il y a une espèce d'histoire, d'épisode amoureux au milieu de la chanson. Puis après, ça se termine. Bon, le garçon est reparti et puis la fille est repartie. Oui, c'est une toute petite complainte de rien du tout, mais qui contient déjà toute une série d'éléments. Voilà, qui sont tout à fait révélateurs de l'univers yiddish qui a fasciné Kafka quand il l'a découvert avec davantage de précision.
Kafka, dont vous nous dites dans votre préface qu'il a beaucoup étudié les textes juifs, qu'il a beaucoup pris de cours du hassidisme et que cette pensée-là l'a énormément influencé dans son écriture.
Oui, mais sur le tard. C'est-à-dire que.
À la fin.
À la fin. Donc, il a aussi chez lui l'expérience de la découverte. Bien qu'il ait été élevé dans une famille juive, mais où, disons, la pratique était, et a fortiori la connaissance des textes et tout ça était quand même très très faible. Et il s'est réinitié à ce fond culturel avec passion, courage, jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà. Et donc, cette chanson de Chava Halberstein que je connaissais depuis longtemps avant d'avoir rouvert les livres de Kafka, donc me semblait bien témoigner du charme que pouvait avoir aussi, indépendamment d'aspects beaucoup plus intellectuels, cette culture et le retour dans cette culture de Kafka, quelque chose de très original qui a posé des problèmes d'ailleurs à la philologie, parce que il y avait des tas de choses qui n'étaient pas connues. On s'est plongé dans les textes, dans la littérature yiddish de manière académique assez tard, Mais les Allemands l'ont fait beaucoup, d'ailleurs, dans les années 80.
Donc, au fond, Kafka était aussi un colporteur de langues, d'univers très différents. Il introduisait dans son écriture différents registres.
Oui, il a défendu le yiddish, parce que le yiddish était rejeté dans la communauté juive de Prague. Et il l'a défendu, il a organisé des conférences. Il a fait lui-même une conférence là-dessus. Il a payé de sa poche pour que les gens viennent. Enfin, il était assez solitaire dans cette aventure.
Alors, dans l'histoire de la littérature mondiale, Jean-Pierre Lefebvre, on dit encore que Franz Kafka ne voulait pas que son œuvre soit publiée. On sait que l'histoire, heureusement pour nous, en a été autrement et que c'est son ami Max Brod qui a publié ses œuvres. Or, avec la publication de ce double volume, plus de 3000 pages, je crois, que vous venez de publier, de la traduction nouvelle de Franz Kafka, on s'aperçoit qu'il y a des choses inédites qu'on ne connaissait pas, que vous nous permettez de découvrir, notamment ces liasses, cette liasse de 1920 qui est absolument incroyable pour comprendre l'univers de Kafka. Y a-t-il encore des inédits de Kafka aujourd'hui, début 2019? Et Max Brod a-t-il vraiment trahi le vœu de son ami Franz Kafka en publiant son œuvre?
Moi, je pense que Max Brod est certainement l'individu qui connaissait le mieux, disons le plus fraternellement, même si leurs relations n'ont pas toujours été, bien sûr, idylliques, mais dans le temps aussi, elles n'ont pas toujours connu la même intensité, mais il a interprété la demande de Kafka comme une espèce de symptôme d'un moment de sa dépression ce qui l'a amené à relativiser la puissance de la demande. Cela étant, il y avait chez Kafka quelque chose de très très profond dans la conviction qu'il avait que son œuvre n'était pas publiable parce qu'elle n'était pas finie. C'est quelqu'un qui avait une admiration énorme pour tous les ouvrages finis. Cet effort pour finir, enfin, s'observe dans son écriture. Et donc, voilà, maintenant c'est fait. De toute manière, Max Brod a publié les choses.
Et les inédits, il en reste encore.
Alors les inédits, les seuls inédits, je pense qu'on pourrait encore trouver, mais là je ne suis pas absolument certain, sont éventuellement dans des caisses ramassées par l'armée rouge à Berlin, la Gestapo est venue chez Dora Diemant, la dernière compagne de Kafka, et a embarqué tous les papiers. Dora Diemant n'avait pas tout détruit, contrairement à ce que Kafka lui avait demandé également. Et donc, voilà, l'hypothèse qu'il existe encore des papiers qui se promènent dans la nature existe. Mais, comment dire, elle est assez désespérée. Je ne pense pas que... Enfin, bon, on verra bien. Enfin, moi, je ne verrai pas, mais peut-être que ça surgira un beau jour comme un poème de Hölderlin qui décrit en 1803, qui ressort dans une vente à Londres en 1954 et qui chamboule tout. Ça arrive aussi. Mais je crois quand même que là, pour Kafka, ça se passera autrement. En tout cas, je pense que Max Brod a été honnête avec la mémoire qu'il avait de son ami.
Dernière question, Jean-Pierre Lefebvre. Dans cette proximité à laquelle vous nous introduisez grâce à votre traduction de Franz Kafka, vous en faites un jeune homme qui, hélas, est mort beaucoup trop tôt, en plein élan d'écriture, et quelqu'un qui aurait dû continuer à vivre, qui aurait pu continuer à nous parler à l'oreille, et qui nous parle, je crois que ce sont vos propres termes, à notre voix intérieure. Et vous imaginez que finalement, cette oralité de Franz Kafka, ce travail de Franz Kafka, aurait pu continuer. Vous pensez qu'il y a des descendants de Franz Kafka ?
Bon, il y a des descendants, il y a un nombre considérable, mais pas non identifié. Aucun individu dans le monde de la littérature ne peut être considéré comme un descendant, disons, de Franz Kafka. Mais Franz Kafka est quelqu'un qui a une belle expression qu'employait Aimé Mie pour dire une influence stellaire, une pression stellaire. L'influence de Kafka est de cet ordre, même s'il y a des écrivains chez qui il rencontre des échos très très forts, notamment Paul Celan, par exemple, chez qui, voilà, il y a cette fraternité presque quasi immédiate, et y compris dans l'expérience de la souffrance et dans les autres expériences de la vie. Et dans j'en reviens aussi dans les goûts, dans le type de littérature qui est visée. Et donc, s'il avait vécu, je ne sais pas trop comment il aurait continué. Je pense c'était quelqu'un qui était très attentif à ce qui se passait. Il aurait peut-être embrassé, que sais-je, le cinéma ou des choses comme ça. Mais bon, ce sont des hypothèses un peu abstraites.
Ben avec vous, on va rester dans cet univers stellaire, on va rester dans les étoiles. Merci infiniment Jean-Pierre Lefebvre. Je rappelle que les deux premiers volumes de Franz Kafka viennent juste de paraître dans la nouvelle traduction de Jean-Pierre aux éditions Gallimard, et qu'il y a deux autres volumes qui vont suivre. Donc on vous attend, vous n'avez pas terminé Jean-Pierre Lefebvre. Et on va rester dans les étoiles en écoutant Suspirium, Thom Yorke. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique ce soir, à Antoine Joubert, Élodie Royenne, Sophie Dazard, et ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Claire Destacan qui a réalisé cette émission.